Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Ça va le son? Ok, j'ai pas vu les réponses, hein. J'ai pas regardé qui a levé la main. Donc chapitre 9 à 12 de Josué. Donc on a quatre chapitres, de longs passages et des choses très riches d'enseignements. Donc forcément, ça demande à mettre certains points de côté. Et je ne vais pas tout lire non plus ce matin, ça ne va pas le permettre. Et je vais passer sur des choses, comme dit, qui seraient très riches d'enseignements, même pour nos vies personnelles. Et je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas lu, à y revenir après. Et je suis sûr que le Seigneur vous parlera aussi au-delà de ce que je vais pouvoir partager ce matin. Je vais faire un peu un survol de ces quatre chapitres et en essayant de retenir quelques points, quelques enseignements sur chaque chapitre, mais s'inscrivant, vous le verrez, dans une ligne plus globale. Dans une ligne, pour vous dire déjà de suite, qui m'a beaucoup plus parlé, celle de l'Alliance. Celle de l'Alliance et que l'on va retrouver tout au long de ces chapitres, mais bien sûr de ceux qui ont précédé, des livres qui ont précédé et de ceux qui suivront, et qui ne seront que, j'ai envie de dire, des images de l'alliance plus parfaite à venir en Jésus-Christ. Alors, on peut lire ensemble quand même quelques passages, et notamment, avant de commencer la lecture des 15 premiers versets du chapitre 9, un bref résumé des chapitres précédents. Donc, désormais, le peuple d'Israël a franchi le Jourdain, ils ont pris Jéricho, ils ont pris la ville d'Aï. Il y a eu quelques rappels, des fois un petit peu disciplinaires ou spirituels, notamment lors de la faute d'Acan qui nous a été rapportée. Et juste avant de démarrer le chapitre 9, il nous est rapporté que tout le peuple est réuni entre deux monts, le mont Ebal et le mont Garizim, et que là, lecture est faite de la loi tout entière. Josué lit à tout le peuple sans en rien omettre. Donc, chapitre 9. La nouvelle de ces événements parvint à tous les rois des pays situés à l'ouest du Jourdain, dans la région des montagnes, dans la plaine côtière et sur tout le littoral de la Méditerranée, jusqu'en face du Liban. Les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens. Alors ils s'assemblèrent pour combattre Josué et les Israélites sous un commandement unique. Par contre, les habitants de Gabaon, en apprenant comment Josué avait traité Jéricho et Aï, décidèrent de recourir à la ruse. Ils partirent déguisés et chargèrent leurs ânes de sacs usés et d'outres à vin usés, troués et rapiécés. Ils chaussèrent de vieilles sandales raccommodées et endossèrent des vêtements en lambeaux. Ils prirent en guise de provision du pain dur et tout moisi. Ils se rendirent ainsi au camp de Gilgal et vinrent trouver Josué, auquel ils dirent en présence des hommes d'Israël: « Nous arrivons d'un pays lointain pour vous prier de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites répondirent à ces Héviens: « Qui sait si vous n'êtes pas des habitants du voisinage? Dans ce cas, nous ne pouvons pas conclure une alliance avec vous. » Ils déclarèrent à Josué: « Nous voulons être tes serviteurs. » Mais qui êtes-vous? Leur demanda Josué. « Et d'où venez-vous? » Ils lui répondirent: « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause du renom de l'Éternel ton Dieu. Nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte, et comment il a traité les deux rois des Amoréens qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi du Bazan, qui résidaient à Ashtaroth. Alors, nos responsables et tous les habitants de notre pays nous ont dit: « Emportez des provisions pour le voyage, allez trouver les Israélites et dites-leur: nous voulons être vos serviteurs, concluez une alliance avec nous. » Je vais m'arrêter à ce verset, je ne vais pas aller jusqu'au 15. Nous voulons être vos serviteurs, concluez une alliance avec nous. Ces Gabaonites, qui sont du peuple évien et qui habitent la ville de Gabaon et quelques villes aussi alentour, je les trouve très surprenants dans leur réaction et dans ce qui va suivre. Il y a une ruse, il y a effectivement de la ruse, mais dans leur comportement, je les trouve, ils se démarquent, et on va le voir, ça va être le seul peuple avec qui il n'y aura pas de combat dans la prise de Canaan. C'est très surprenant dans cette énumération de ce que disent les Gabaonites. Ils sont bien renseignés, comme les autres peuples, de ce que l'Éternel a fait depuis la sortie d'Égypte, des prodiges qui ont été accomplis par la main de Moïse et par l'Éternel. Et ça, la renommée de l'Éternel s'est répandue de peuple en peuple dans tout le pays de Canaan, et sûrement au-delà. Mais il y a une chose assez étrange, c'est qu'on dirait qu'ils connaissent quand même les lois qui s'appliquent au peuple d'Israël. C'est-à-dire, ça ne serait pas impossible, ce n'est pas noté, mais on va prendre, et je finirai ma phrase après, on va prendre le chapitre 20 du Deutéronome, alors on ne va pas le lire, je ne l'ai pas mis, mais sur lequel il y a des précisions, des règles sur les guerres. Je ne vais pas revenir en détail sur Farid, Joël l'ont fait précédemment, sur la dimension de la vocation par interdit, qui est effectivement très choquante, de vouer tout le monde par interdit, hommes, femmes, enfants, même les animaux, etc. Mais, donc ça, il en est question dans le chapitre 20 du Deutéronome. Mais Dieu y donne aussi d'autres conditions pour la guerre qui se ferait potentiellement au-delà des frontières du pays de Canaan. Et là, il leur dit, quand vous serez en guerre avec d'autres peuples, c'est des choses qui arriveront, il n'est pas dit que c'est la volonté de l'Éternel, d'accord ? Il leur dit d'abord, quand vous assiégez une ville, vous toquez à la porte de la ville, voir s'ils veulent se rendre ou pas. S'ils se rendent, vous seront assujettis, ce seront des peuples vassaux, mais vous ne tuerez personne. Pas les hommes, pas les femmes, pas les enfants, pas les animaux. S'ils ne se rendent pas, là, par contre, vous serez en droit de tuer les hommes, mais vous épargnerez femmes, enfants, animaux, etc. C'est un autre cadre de celui de la vocation par interdit qui était, rappelons-le, un jugement de Dieu premièrement, et Dieu se sert du peuple d'Israël pour exécuter ce jugement. On verra par la suite que Israël aussi sera sous le coup de jugement et l'Éternel utilisera d'autres peuples pour cela. Et il est dit à la fin du chapitre 8 que la lecture de la loi entière a été faite publiquement. On voit même qu'il y avait des peuples étrangers, alors ceux qui vivaient parmi Israël, j'imagine, là c'est pas écrit, attention, mais on peut imaginer qu'il y avait aussi des espions des autres. Et peut-être que ces Gabaonites ont entendu ces paroles et se sont dit, tiens, si on était un peuple étranger et qu'on se rende, eh bien, on ne serait pas voué par interdit, comme ça va être le cas de tous ceux qui habitent le pays de Canaan. Et leur cœur ne s'endurcit pas. Leur cœur ne s'endurcit pas et ils vont utiliser la ruse. Je trouve, sans dire que c'est la volonté de l'Éternel, attention, de conclure une alliance avec ce peuple, mais quelque part comme une crainte malgré tout de ce peuple qui ne va pas s'endurcir jusqu'au bout, parce que le peuple dont ils font partie, les Éviens, fait partie des différents rois qui concluent une alliance entre eux pour combattre Josué et son armée. Donc imaginez, ce sont des traîtres. En faisant ça, ils prennent un très gros risque, ces Gabaonites. Ils ont tous les rois, enfin une grande majorité des rois de leur peuple qui s'unissent et des peuples alentours pour combattre Josué. Et eux, ils vont faire un acte de traîtrise envers leur propre peuple. Donc pour ça, ils risquent la mort, clairement. Donc ils sont entre deux, soit ils risquent la mort de la part de leur propre peuple, soit la condamnation de l'Éternel. Et là, ils disent, la condamnation de l'Éternel, elle est plus certaine et elle risque d'être plus terrible. Donc, ils choisissent, par la ruse, de faire alliance avec le peuple d'Israël. Cette alliance est même surprenante. On ne verra pas dans la suite. J'ai cherché, alors peut-être que vous en trouverez, mais on ne voit pas d'acte de traîtrise ensuite des Gabaonites qui vont vivre pendant des siècles au milieu d'Israël. On ne voit pas de soulèvement militaire ou autre de ces Gabaonites contre Israël. Il n'est pas non plus dit qu'ils vont abandonner leur Dieu et marcher pleinement dans la volonté de l'Éternel, d'accord ? Il va y avoir une sorte de cohabitation qui, contrairement à d'autres peuples qui vont continuer hein, de cohabiter, on va voir que tous les peuples de Canaan ne seront pas non plus totalement éradiqués, et il va y avoir des tensions armées tout au long des siècles qui vont suivre. Pour eux, il y a une cohabitation qui est sous alliance. Alors, il y a plusieurs enseignements à tirer de ce premier chapitre. Je passe assez vite parce que, comme dit, le temps est limité, et on a 4 chapitres à couvrir. Mais il y a deux angles de vue. Là, j'ai présenté celui un petit peu du côté des Gabaonites. Où quelque part on peut se dire, ouais, il y a une certaine crainte malgré tout de l'Éternel, parce qu'ils vont préférer être serviteurs du peuple qui les attaque plutôt que de s'allier avec leurs amis. Par contre, du côté d'Israël, il y a clairement une faute. Moïse, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, et l'avait rappelé ensuite, hein, avait dit que tous ceux qui résidaient là devraient être exterminés. Et là, c'est leur première réaction. Ils leur disent, mais vous venez d'où ? Parce que vous êtes peut-être du voisinage. Et c'était effectivement le cas. Donc, avec leur réflexion, on va dire, leur intelligence humaine, ils partent sur la bonne piste. Et là, on va voir, dans les quelques versets qui suivent, à chaque fois, les Gabaonites vont leur dire, verset 12, « Regardez notre pain. Il était encore tout chaud quand nous l'avons pris pour nos provisions dans nos maisons, quand nous nous sommes mis en route pour venir vous trouver, et le voilà maintenant dur et tout moisi. Regardez nos outres. » Alors, là on voit qu'il est dit que les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, mais ils ne consultèrent pas l'Éternel à ce sujet. Et on voit qu'il y a une dimension très matérielle, des sens humains. Regardez, ils les prennent, ils touchent. Et du coup, ils sont dans une dimension de discernement qui est uniquement humaine, matérielle. Ils ne vont pas au-delà. Alors qu'on voit, et Joël en a parlé la semaine dernière, c'était quand même une génération qui avait l'oreille assez fine pour entendre la voix de l'Éternel et un cœur prompt à lui obéir. Mais là, il va y avoir une faute quand même, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas consulter l'Éternel et leur jugement va être juste dans le regard, le toucher. Voilà. Alors, petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a bien des situations où notre jugement peut être altéré par ce qu'on voit, par ce qu'on touche. Et attention à ça. On peut avoir beaucoup d'années d'expérience derrière nous, même avec le Seigneur, comme c'était le cas de Josué. Josué, il n'était pas tout jeune. Hein. Il avait passé quand même 40 ans dans le désert et il faisait partie des espions avec Caleb et 10 autres qui avaient déjà espionné quand ils avaient peut-être une vingtaine d'années. Enfin, il a, je crois, 80 ans à peu près, je ne dis pas de bêtises, quand il commence à rentrer vraiment dans le pays de Canaan. Donc, on pourrait dire qu'il a une stature, il a une expérience avec le Seigneur, mais attention, même après des années de vie avec le Seigneur, ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse, mais cherchons toujours avec humilité la volonté du Saint-Esprit. Des fois, il y a de l'opposition physique, dure, comme on voit à Jéricho, Haï. Il y a des forteresses qui sont clairement établies, voire spirituelles. Et là, on a l'impression que l'ennemi, Satan, va utiliser cette fois-ci non pas la force, mais au contraire, il va un petit peu les pousser en avant, le peuple d'Israël. C'est-à-dire que au lieu de les retenir, il voit qu'il ne peut pas les retenir par la force, parce que l'Éternel combat avec eux, et bien il va y aller par un autre chemin, celui de la ruse. Et des fois, il y a des situations aussi dans nos vies comme ça, où on se dit « Ah ben je suis béni, j'ai telle opportunité, telle rencontre, telle proposition de travail, telle, voilà, des voies qui s'ouvrent dans tous les sens. » Discernons, plaçons-nous devant le Seigneur, pour reconnaître aussi quelles sont ses voies, et pas juste ce qui plaît à l'œil ou au toucher. Comme dit, ne soyons pas dans un discernement uniquement humain. Mais ce que je voudrais faire, vraiment, ça c'était des points que j'avais à cœur de partager, mais ce que je voudrais faire vraiment ressortir, c'est la dimension de l'alliance. On va accélérer, on va bondir 400 ans plus tard du temps de David. On va voir des faits qui nous sont relatés dans 2 Samuel, chapitre 21. Il y a une famine qui frappe pendant 3 ans consécutifs le peuple d'Israël. Et là, David, qui est roi, il implore l'Éternel avec instance. C'est ce qui est dit. Donc apparemment, il n'a pas eu de réponse la première fois qu'il s'est mis à genoux devant l'Éternel. Il est dit vraiment qu'il implore avec instance. Et l'Éternel finit par lui répondre. Quelle est la cause de cette famine qui dure depuis 3 ans? C'est quand même long. On voit qu'il y a des famines comme ça, d'une telle ampleur, que c'est qu'il y a une malédiction. Par exemple, du temps d'Élie, quand l'Éternel va faire cesser la pluie aussi pendant des années, parce qu'il y avait l'idolâtrie qui avait atteint un tel niveau, etc. Et là, bon, il y a une faute un petit peu d'ampleur nationale. Et les conséquences, en tout cas, sont nationales. Et Dieu va lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? Saül et sa famille sanguinaire, il est dit, par excès nationaliste pour la maison de Judée, ou par excès de zèle, selon les traductions, pour la maison de Judée et d'Israël, ont exécuté les Gabaonites. Waouh! Et donc là, David va trouver les Gabaonites, rescapés, et il leur dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je vous le ferai, de l'or, de l'argent, etc. Les Gabaonites répondent, livre-nous 6 fils de la maison de Saül. C'est ce qu'il fait, il épargne quand même Mephibosheth, le fils de Jonathan, avec qui il avait eu aussi lui-même une alliance, et les Gabaonites mettent à mort ses 7 fils. Et là, la pluie revient et la famine cesse. Ça m'a marqué quand j'ai vu les liens entre ces passages. On se dit qu'il y a une alliance qui nous paraît un petit peu, passez-moi l'expression, mais foireuse, quoi. Les Israélites, ils se font avoir. Ça ne nous semble pas être la volonté de l'Éternel. Mais ils ont appliqué malgré tout une loi. Ils ont appliqué la loi qui concernait les guerres en dehors du pays. D'accord ? Et en plus, il a conclu au nom de l'Éternel. Et là, cette alliance qui était imparfaite et faite par des hommes, Dieu va quand même veiller dessus. Au point qu'au jour où Israël va trahir cette alliance, il y aura une malédiction pesante sur eux. Et il y a du sang qui va couler pour enlever cette malédiction. Là, je me dis, waouh, ça a glissé. Merci. Et donc, au point où une alliance aussi, je me dis aussi, merci.
Désolé.
La technique. Merci Pierre. Au point, je disais, oui, cette alliance, aussi imparfaite soit-elle, Dieu va veiller dessus pour qu'elle soit respectée. Je me dis, si Dieu veille sur une alliance, du temps où les choses étaient, comme il est dit, l'ombre des choses à venir. S'il veille dessus pour qu'elles s'exécutent, à combien plus forte raison ne veillera-t-il pas sur l'alliance faite en Jésus-Christ, conclue au sang, par le sang de l'agneau. Et là, je dis, ce peuple, c'est un peuple étranger au sein d'Israël. L'Éternel va bénir Israël, vraiment. Mais on voit que ceux aussi avec qui Israël passera alliance seront sous la bénédiction, hein, au bénéfice de cette alliance. Et je me dis, waouh, nous qui n'étions pas un peuple, nous avons été rachetés en Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui d'une alliance encore meilleure. Et si la sentence pour le peuple d'Israël, quand ils ont bafoué cette alliance 400 ans plus tard, a été une famine de 3 ans, quelle sera la sentence pour ceux qui bafoueront l'alliance conclue par le sang de l'agneau? Je ne dis pas ça par condamnation, mais oui, il y a une gravité dans cela. Il y a une grâce incommensurable, mais il y a aussi une gravité profonde que de laisser passer cette alliance. Je passe au chapitre 10. Et là, on voit que cette ligue des rois, notamment sur l'initiative du roi de Jérusalem qui a très peur, ils vont se retourner finalement contre la ville de Gabaon. Alors, au début du chapitre 9, hein, il est dit que la nouvelle de ces événements parvint à tous, etc. Et ils s'assemblèrent pour combattre Josué et les Israélites sous un commandement unique. Donc ils se sont assemblés et finalement, là, ils vont liguer leurs forces contre Gabaon qui les a trahis. Et ouais, forcément. Alors, on peut se dire peut-être que dans un dernier espoir, ils veulent livrer une bataille où ils espèrent être vainqueurs parce qu'ils savent que quelque part, ils seront perdants contre Israël quand ils voient tout ce qui s'est déjà fait. Et donc, ils tournent leurs efforts contre Gabaon. Et là, Gabaon, les habitants de Gabaon courent chercher de l'aide à leur protecteur auprès de Josué pour lui dire « Tes serviteurs sont attaqués, viens nous défendre. » Et là, en vertu de l'alliance qu'ils ont passée, eh ben, ils se doivent de les défendre. On voit que cette alliance a des conséquences pour Israël. Et il va y avoir une des plus célèbres batailles de l'Ancien Testament dans ce passage. Et on va lire les versets 8 à 14 du chapitre 10. Je crois que c'est affiché, merci. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux. Aucun d'eux ne pourra te résister. » Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, Josué tomba sur eux à l'improviste. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et leur fit essuyer une grande défaite devant Gabaon. Les Israélites les battirent en les poursuivant sur la montée de Beth-Horon et jusqu'à Azekah et Makeda. Pendant que les Amoréens s'enfuyaient devant Israël sur la pente qui descend de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber sur eux du ciel d'énormes grêlons qui jusqu'à Azekah firent encore plus de victimes que les épées des Israélites. Ce jour-là, où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit son cours, jusqu'à ce que le peuple d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du Juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis lors, il n'y eut de jour comparable à celui-là où l'Éternel a écouté la voix d'un homme. C'est qu'il combattait lui-même pour Israël. Waouh! Remarquable. L'Éternel combat avec eux. L'Éternel combat avec eux, on le voit même au travers de ses prodiges. Alors j'ai envie de dire, Quel enseignement à tirer? Je vais commencer par un enseignement à ne pas tirer de ce passage. Non, il n'y avait pas besoin de conclure une alliance avec Gabaon pour que l'Éternel intervienne en leur faveur et leur livre ses rois. À aucun moment, ce passage ne laisse penser ça. Des fois, on se dit, ah, je reprends un petit peu ma pensée de tout à l'heure. Il y a une bénédiction, entre guillemets, qui se présente. Et puis, on se rend compte qu'en fait, c'était pas du tout envoyé de l'Éternel. Et puis, de là, il y a la grâce de Dieu qui agit. C'est sa grâce qui agit. Ce n'était pas sa volonté primaire. Oui, Dieu avait annoncé qu'il donnerait la victoire, mais il n'y avait pas besoin de cette alliance et de cette circonstance pour accorder cette victoire. Mais la bonté de l'Éternel et sa fidélité va au-delà des erreurs qui peuvent être commises par son peuple et l'Éternel va accorder la victoire. On voit bien que ces rois avaient conclu une alliance entre eux avant que Gabaon les trahisse. D'accord ? C'est pas ça qui a déclenché le fait qu'ils se lèvent contre Israël. Mais au travers de cela, Dieu, qui est fidèle, va donner la victoire à son peuple. Et c'est bien ça, je crois, qu'il faut retenir, c'est que la fidélité de l'Éternel et pour ceux qui respectent son alliance. Et que même au-delà de nos erreurs, eh bien, l'Éternel est fidèle. La grandeur de l'Éternel est mise en avant dans ces passages. Je crois que c'est ça aussi qu'on peut voir, c'est que Dieu, il avait un plan, et là, on voit clairement que c'est lui qui intervient pour exécuter le jugement qu'il avait prononcé. Je passe au chapitre 11 et je vais lire les versets 1 à 9. Lorsque Yabin, le roi de Hatsor, apprit les victoires de Josué, il envoya des messagers à Yobab, roi de Madan, au roi de Shimron et d'Ashaph, ainsi qu'à ceux qui étaient établis dans la région montagneuse du nord, dans la plaine du Jourdain, au sud du lac de Kinnérot, dans la plaine côtière et sur les coteaux de Dor à l'ouest. Il adressa des messages aux Cananéens établis à l'est et à l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phérésiens et aux Jébusiens, établis dans la région montagneuse, et aux Éviens, établis au pied de l'Hermon, dans la région de Mitzpah. Alors, ça couvre un très large territoire. Excusez-moi, je n'ai pas préparé de carte, ça aurait été intéressant. Tout à l'heure, dans le chapitre 10, ça se situait plus sur la partie sud d'Israël, à l'ouest de Jérusalem notamment, et dans la partie sud. Là, on est sur des régions qui vont en fait quasiment du Liban jusqu'à la moitié à peu près du pays d'Israël. On est vraiment sur des rois qui couvrent des peuplades sur toute la partie nord d'Israël. Donc ça couvre un très très vaste territoire. C'était une multitude innombrable. Non, tous ces rois se mirent en campagne avec leur armée au complet. C'était une multitude innombrable, comme les grains de sable des bords de la mer, et ils étaient équipés d'un nombre énorme de chevaux et de chars de guerre. Ils se donnèrent rendez-vous et vinrent établir leur camp près des eaux de Méron pour attaquer Israël. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain à cette heure-ci, je les livrerai tous blessés à mort au pouvoir d'Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » Josué et toute son armée vinrent attaquer leurs ennemis par surprise près des eaux de Méron, et ils se ruèrent sur eux. L'Éternel les livra au pouvoir des Israélites qui les battirent en les poursuivant jusqu'à Sidon, la grande ville, jusqu'à Misrephoth-Maïm, jusqu'à la vallée de Mitzpé à l'est. Ils leur infligèrent une défaite totale au point de ne leur laisser aucun survivant. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et brûla leurs chars. Donc là, cette fois-ci, il y a un peuple innombrable qui déferle sur eux. Il y a eu d'abord la ville de Jéricho qui a été prise sans combat, Haï, qui, sur une deuxième tentative, a été prise, gérée de façon armée. Il y a cette coalition de cinq rois dans la partie sud, et là, on ne sait même pas exactement combien ils sont. On sait que c'est une multitude innombrable. Et encore une fois, comme c'est dit depuis le chapitre 1, là, Pierre vous avait partagé sur le chapitre 1, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ça revient encore. Le Seigneur sait que la peur peut nous paralyser. Et je trouvais, cette image de ce peuple innombrable comme le sable qui faisait référence à la promesse qui avait été faite à Abraham, que le Seigneur le rendrait sa descendance aussi nombreuse que les étoiles et que les grains de sable qui sont au bord de la mer, que l'on retrouve dans le chapitre 22 de la Genèse. Et là, on voit que ce sont les ennemis d'Israël qui sont aussi innombrables que le sable. Il n'est pas dit qu'Israël est innombrable, il est dit que leurs ennemis sont innombrables. Et la promesse qui accompagnait, faite par Dieu à Abraham, qui accompagnait cette dimension numérique à la descendance d'Abraham, c'était aussi qu'ils dominerait sur leurs ennemis. Promesse qui n'était pas faite à ces peuples-là. Et là, l'Éternel va leur accorder une victoire totale. Une victoire totale et au-delà du nombre d'ennemis qui vont venir les assaillir. Il y a un point, je dirais, là c'est plus, pas forcément dans la dimension de l'Alliance, mais une parenthèse sur un enseignement, je trouve, qui peut être retenu pour nos vies. Au-delà de beaucoup de choses aussi qui ont déjà été partagées dans les chapitres précédents, et je ne veux pas faire trop de redites. Mais pourquoi aller couper les jarrets des chevaux et brûler les chars ? Ça pourrait quand même être utile pour la suite, non ? D'avoir des chevaux pour la guerre et des chars, c'est quand même... Ils mettent à mort leurs ennemis, et puis là, il y a tous les outils de guerre possibles. Eux, ils n'avaient pas de chars, ils n'avaient pas de chevaux, ils avaient des ânes éventuellement. C'est un peu moins viril, hein, sur le champ de bataille. Allez, tu as la carotte au bout de la ficelle. C'est moins impressionnant. Et le Seigneur, il dit, mais ne prenez pas leur façon de faire. N'imitez pas leur façon de faire. Et je crois que le Seigneur aussi veut nous parler dans différentes situations. N'imite pas la façon de faire du monde. N'adopte pas son modèle. On voit David face à Goliath. Saül va lui proposer son armure. Non. Le Seigneur, il ne nous demande pas de nous défaire de tout ce qu'il nous a donné. Il ne nous demande pas d'abandonner déjà ce qu'on a reçu pour combattre. Mais il nous dit non. Ne prends pas leurs armes. Ne prends pas leur façon de faire. Ça peut être dans tellement de situations. On le voit au quotidien, dans le travail, il y a des façons de faire pour jouer des coudes, etc., pour avancer dans la carrière. Ça peut être dans les relations de couple, pour imposer son point de vue, sa volonté. Ça peut être dans 36 000 choses. On pourrait s'inspirer de ce monde, que ce soit dans la mentalité ou dans les procédés. Et je crois que le Seigneur, il nous dit, coupe, détruis, sois radical. Je te donne ma pensée, n'adopte pas la mentalité du monde. Alors si tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est trop imprégné de la façon du monde, alors apporte-le sur l'autel et là, vraiment, mets-le à mort, évidemment. On sait dans quel contexte aujourd'hui on parle, on n'est plus du tout dans une dimension charnelle du sang et de la mise à mort, ok, mais ça peut être matériel, des choses qui nous tiennent captives, qui nous retiennent dans ce dans quoi le Seigneur veut nous amener. Abandonne ces procédés. Et ne nous laissons pas intimider par le nombre. La promesse qu'avait fait l'Éternel à Abraham, l'alliance qu'il avait passée avec lui, s'accomplit et continue de s'accomplir. Je passe au chapitre 12, que l'heure tourne. Au chapitre 12, il n'est plus question de combat. On va avoir une transition ensuite avec les chapitres suivants. Et donc Farid a bien découpé ces passages, où après il sera question de partage du pays. Mais dans ce chapitre 12, on a un rappel de ce qui a été déjà accompli dans la conquête du pays de Canaan par Moïse. Il y avait deux rois qui avaient été vaincus à l'est du Jourdain, en Transjordanie, et aussi de tout ce qui a été accompli du temps de Josué. Et on y voit une continuité. On voit une continuité entre ce qui avait été amorcé par Moïse et son successeur Josué. Et là, on voit quand même que Josué, il ne cherche pas, comme beaucoup de successeurs de ce monde, à se différencier de façon orgueilleuse de son prédécesseur. Il va, je dirais, aussi faire, entre guillemets, à sa manière, il va lui-même écouter la voix du Seigneur, mais il va garder toutes les prescriptions que l'Éternel avait données par la main de, l'intermédiaire de Moïse. Il va tirer les leçons du passé. Il savait aussi ce que ça coûtait que de laisser place à la peur et de désobéir. Ils ont quand même passé 40 ans dans le désert. Mais il va porter ses regards vers l'avant. Comme Paul nous dira, faisons une seule chose, portons nos regards vers Jésus et courons dans la carrière qui est devant nous. Et Josué va être dans cette attitude-là. On pourrait parler de beaucoup de choses, notamment de l'obéissance et de la rétribution qui viennent souvent, mais je vous l'ai dit en introduction, je n'ai pas attendu pour la conclusion que je fais à présent, mais ce qui a particulièrement retenu mon attention dans ces chapitres, c'était la dimension de l'alliance faite par Dieu. L'Éternel est fidèle à ses promesses, promesses dont il ne se repent pas, mais qui bien sûr aussi nécessitent notre obéissance pour les voir s'accomplir, je dirais, à notre niveau. Quoi qu'il en soit, sa volonté s'accomplit. Mais si on veut les voir s'accomplir, alors nous devons y conjuguer notre obéissance. Dieu est le seul initiateur de son alliance et le seul capable de la réaliser. Comme il le fera pour la nouvelle alliance scellée par le sang de l'agneau. On voit que les alliances que Dieu passe, il les passe avec des hommes, mais elles viennent de lui. Je dirais, elles sont descendantes. Il nous demande, d'y conjuguer notre obéissance, mais l'alliance, elle vient de lui. Et c'est ce qui fait qu'elle a du poids, elle est éternelle, il est fidèle parce que c'est lui qui l'a promis. Et cette alliance que l'on a en Jésus-Christ, comme je disais tout à l'heure, qui est scellée par le sang de l'agneau, elle est éternelle. Elle n'est pas juste pour un pays, pour une promesse qui était pour un temps donné et l'ombre des choses à venir dans une dimension plus spirituelle, mais elle est éternelle. Je voulais lire quelques versets pour terminer du psaume 103. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Que le Seigneur vraiment nous conduise à bénir son œuvre et son alliance. Que le Seigneur vous bénisse.